Ce show dédié pour la réussite et les bénédictions sur Naël Ashkar, appelé Shlomo Ben Avraham Bezrat Hashem. On est à notre troisième épisode de la Miglat Route, le rouleau de route, suite et fin Bezrat Hashem. Donc on est arrivé au point où Ruth, tous les jours, va dans le champ de Boaz, glaner là-bas des graines, et trois mois sont passés depuis son arrivée à Bethléem avec Naomi, sa belle-mère. Ils sont arrivés le deuxième jour de Pessah, on est trois mois plus tard. Et on sait que d'après l'Halakha, il faut qu'une femme qui s'est convertie, donc en arrivant à Bethléem, Ruth s'est convertie, il faut qu'elle attende trois mois afin de pouvoir se marier, de peur que peut-être elle est enceinte de quelqu'un d'autre avant sa conversion. Les trois mois sont passés, le moment est qu'on lui recherche un chidour. Naomi, la belle-mère, lui dit, écoute, j'ai une idée. Tu sais quoi? Cette nuit, Boaz va dormir dans la grange, dans les champs là-bas. Comment ça se passe? On fait les moissons et on a les épis. Dans les épis, il y a la graine qui est entourée de son, de la pelure de l'épi. Alors on bat le grain et après, on a un tas de grains et de son et de pelure qui sont mélangés. Comment on fait pour faire le tri entre les deux? On va commencer à choisir comme ça. Aujourd'hui, ça fait des machines, mais à l'époque, il y a une façon beaucoup plus simple de le faire plutôt que de 1-1 comme ça, faire le tri. On attendait qu'il y ait un jour de vent. Et quand il y a du vent, on prend... avec une pelle, on lance les épis avec le son en l'air. Vu que le vent est fort, il prend tous les sons qui sont légers et ils partent, et les graines qui sont lourdes retombent sur place. Et on obtient une grange comme ça, tout un tas de grains de blé ou d'orge, propres, beaux et prêts à être utilisés. Le même jour, il y a du vent. Et Naomi dit à Ruth, écoute, Boaz, il va faire ce tri maintenant au vent. Et il va dormir dans la grange. Pourquoi? Parce que d'abord, faire ce tri, c'est fatigant. On est déjà au mois de juillet, il fait très très chaud. Donc, il fait en fin d'après-midi et il rentre déjà dans la soirée. Et un Talmid Chacham n'a pas le droit d'aller à un endroit qui est seul la nuit comme ça, parce qu'on va croire que peut-être il a fait une chose qui est interdite avec une fille. D'accord, c'est interdit. Ça peut être un Chilou Hashem, hein, une profanation du nom de Dieu. Donc, il va certainement dormir là-bas. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Ne sois pas choqué, mais tu m'écoutes bien. Tu vas aller te laver, tu vas mettre tes beaux habits, tu vas, à leur époque, le texte ne dit pas de mettre du parfum, il dit tu t'enduis d'huile. Aujourd'hui, on ne fait pas ça, d'accord? On dirait aujourd'hui, mets-toi du parfum aussi, des beaux bijoux, et tu vas aller là-bas la nuit, fais attention que personne ne te voit, tu te mets là-bas, et tu diras déjà, tu rentres dans la grange où il se trouve, et tu diras déjà quoi faire. Évidemment, Ruth est super étonnée, ce n'est pas tellement des façons d'agir, mais bon, elle a confiance en sa belle-mère qui est une grande sadéquette, et elle lui dit « tout ce que tu me dis, je le ferai ». Elle fait tout cela, et au milieu de la nuit, elle rentre dans la grange, elle se met au pied de Boaz, un peu éloigné, comme ça, Boaz est en train de dormir, d'accord, elle se met aussi là-bas à dormir, et voilà, elle attend. Au milieu de la nuit, Boaz se lève, pourquoi? Parce que Boaz, c'est l'ancêtre de David Ameller. David Ameller, c'est marqué que toutes les nuits, il somnolait jusqu'à minuit. Somnolait, ça veut dire qu'il respirait moins de 60 respirations. Il y en a qui disent 3 minutes, il y en a qui disent une demi-heure. Il dormait, se réveillait sans cesse pour ne pas dormir d'un sommeil profond. À minuit, il se levait pour aller étudier la Torah. La Torah qu'on étudie après minuit, elle a une qualité très très grande. Boaz, son ancêtre, d'accord, on est 4 générations avant, lui fait la même chose. Et il se lève pour aller... étudier la Torah, et tout à coup, il ne comprend pas, il touche quelque chose, il voit une femme. Horreur, d'accord, il est complètement... il ne comprend pas ce qui se passe, mais qui tu es? Il dit, je suis Ruth. Mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, écoute, tu es le Goël. J'aimerais te donner un nom à la descendance de mon mari, d'accord, mon mari qui est décédé, Marlon, j'aimerais qu'il ait une descendance. Et comme on a expliqué la dernière fois, il y a la loi du hiboum. Alors on a expliqué aussi que ce n'est pas un vrai hiboum. À l'époque, la famille proche, quand une femme était décédée sans enfant, un des proches de la famille, le plus proche, se mariait avec elle pour donner une descendance à la personne, au proche parent qui est décédé. Et j'aimerais que tu mettes comme ça. Elle dit comme ça que tu mettes ton aile sur moi. D'accord? Un choupa, un mariage comme ça. Alors il lui dit, Boaz lui dit, sache. Tu as fait un très très grand chesed avec ta belle-mère Naomi, que tu l'as pendant 10 ans, tu t'occupais d'elle, tu n'es pas allé te marier avec quelqu'un d'autre, c'est avec elle, après tu l'as suivi, tu es venu aussi en Israël, tu as tout quitté, tu habitais le palais du roi de Moab, Eglon, le roi de Moab, tu es venu ici comme une mendiante, tu viens tous les jours glaner, c'est extraordinaire, mais ce que tu fais maintenant, c'est encore plus grand. Tu veux maintenant donner une descendance à ton mari, tu aurais pu aller avec un des jeunes garçons des champs, d'accord, riche, pauvre, peu importe, un beau gosse. Tu prends un vieux pépé comme moi, j'ai 80 ans, j'ai le double de ton âge, elle avait 40 ans, route à l'époque. Et puis, tu es prêt à te marier avec moi, ce reset que tu fais est encore plus grand que le reset que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Écoute, j'accepte, mais sache qu'il y a un problème. C'est que je ne suis pas le plus proche. Moi, je suis un neveu de Elimelech, de ton beau-père. Il y en a un qui est le frère de Elimelech. Il s'appelait Tov. Donc, il est l'oncle de Mahlon. Donc, lui passe avant. Moi, je suis qu'un cousin de Mahlon. Lui, il est l'oncle de Mahlon. Il est plus proche. Donc, lui passe avant. Mais t'en fais pas. Je vais m'en occuper. Regarde. Reste ici maintenant pour le moment. Et tu sors avant qu'il fasse petit matin, sans que personne te voie. Je m'en occupe et les choses vont s'arranger comme tu le veux. Les sages d'Israël disent que dans toute la nuit, il s'est mis sur le ventre comme ça et il a prié à Hachem, un qui se retient de faire un péché avec Ruth, extrêmement belle Ruth, et il comptait se marier avec elle. Il peut se dire un jour avant, un jour après, beaucoup de gens, quand ils sont fiancés avec elle, sont dit bon, de toute façon, on va se marier, et ils font des bêtises, Dieu nous en protège, nous en préserve. Et aussi, il a prié à Hachem toute la nuit, qui n'est pas un Chilou Hachem, qui n'est pas un jeune homme qui voit tout à coup Ruth sortir de la grange où il y avait Boaz, c'était le grand de la génération, d'accord, vénérable, le grand rabbin, le Rav Chaim Kanef de notre génération. Tout à coup, on voit une jeune fille sortir comme ça de la grange et il y aura un grand Chilou Hachem. Baruch Hachem, il n'y a pas eu cela, elle sort le matin et évidemment, il y a eu un grand effort Boaz à faire pour se retenir et il a fait. Les sages d'Israël disent, Shekera, c'est marqué dans Michelet, Shekera Chen, Vehevel Ayofi, Isha Irat Hachem et Titalal. Shekera Chen, mensonge est le charme. Hevel Ayofi, futilité et la beauté. Une femme qui a la crainte de Dieu, elle est digne de louange. Les sages ont dit, il y a ici trois étapes. La première, bon, c'est pas génial, c'est mensonge et le charme. Deuxième, pas génial, futilité et la beauté. Qui est vraiment digne de louange? La femme qui a y rattaché. Ils ont dit, c'est trois épisodes de l'histoire dans le Tanakh. Le premier, c'est Yosef, son épreuve avec la femme de la femme Potiphar, épreuve très très grande, mais néanmoins c'était quelques minutes, il aurait pu se retenir. Il s'est retenu, Baruch Hashem. Deuxième, c'était Boaz. Donc on voit qu'il a eu une épreuve comme Yosef. Il aurait pu aller avec Ruth, il s'est retenu toute la nuit, mais c'est encore pas trop difficile. L'épreuve très difficile, c'est une autre, on ne va pas rentrer dans l'histoire, c'est Pati Ben Laish. Shaoul a promis au roi David, le roi Shaoul voulait il avait peur que le roi David le remplace, soit roi à la place du roi. D'accord. Alors il a voulu qu'il se fasse tuer. Il lui a dit, écoute, je donne ma fille Michal en contrepartie de 100 prépuce de Philistins. Tu vas tuer son vision, tu m'amènes le prépuce pour montrer, parce qu'ils ne sont pas circoncis, comme ça tu leur coupes après que tu l'as tué, et tu m'amènes cela. Shaoul se dit, contre 100 Philistins, il va se faire tuer, et voilà, Baruch Hashem, mon concurrent sera liquidé. David revient avec 200 prépuces de Philistins. Bon, alors il doit lui donner sa fille, c'était une promesse, sa fille Michal. Alors, lui d'abord, écoute, c'est une promesse, c'est comme un dû. On peut pas faire un dikidouché, un acte de si maintenant moi je te pardonne le dû, d'accord, c'est comme si je fais un cadeau, d'accord. Alors on peut pas marier une femme avec le pardon d'un dû. Première chose. Deuxième chose, ça vaut même pas je fais prouta. Quand on se marie avec une femme, il faut lui donner un objet qui a au moins la valeur d'une prouta. On donne une bague, d'accord, aujourd'hui. Le roi David il dit oui, ça vaut une prouta. Combien ça vaut 200 prépuces de Philistins? Ben, Shaoul dit, ça vaut rien. Le roi David dit, non, ça vaut quand même pour donner ça à un chien. Un chien, tu vas d'acheter des croquettes, d'accord, c'est à économiser au moins une prouta. Marloquette. Donc, Michal, elle est la femme de David, oui ou non? David dit que oui. Shaoul dit que non. Shaoul donne Michal en femme, pas à David, un jeune homme qui s'appelle Palti Ben Yaïch, un des héros du roi Shaoul. Paltiel, il y a les deux noms, Ben Laïch. Palti est au courant qu'il y a un problème. De peut-être que cette femme, c'est une femme mariée, adultère. Il prend son épée, la plante, la nuit du mariage, il arrive à la maison, les deux, d'accord, tout le monde est content, hop, il plante le sabre au milieu du lit, il dit, celui qui dépasse le lit d'un côté ou l'autre, de toi ou de moi, il se fait couper la tête par le sabre. Et ils ont vécu comme ça des années ensemble, dans la même chambre, sans jamais se toucher. Ça, Chazal disent, ça c'est Isha Irat Hashem, une femme digne de louange, une femme qui a la crainte de Dieu, digne de louange. Ça, c'est extraordinaire, beaucoup plus que Boaz et Yosef. En tout cas, Boaz a eu une épreuve, Baruch Hashem, il a tenu bien comme il faut, et il a vu que de son union avec Ruth sortirait la royauté du roi David jusqu'à Mashiach Bezrat Hashem. Le lendemain matin, s'il va voir directement le proche parent, il lui dit, écoute, je suis intéressé à me marier avec Ruth, c'est pas cavote pour le grand de la génération, d'accord? Alors, il va au Sanhedrin, histoire que c'est un des grands juges là-bas aussi, et il attend. Et c'est écrit que Dieu a dit, Boaz, il a fait ce qu'il devait faire, sera tenu, il est prêt à se marier, fantastique. Ruth, Naomi ont fait ce qu'ils devaient faire, fantastique. Bon, alors moi je veux faire aussi ma partie, on veut maintenant amener la royauté du Mashiach, n'est-ce pas? Il a fait en sorte, s'agissait, on dit que même si Tov aurait été dans un autre pays, Dieu aurait catapulté qu'il vienne ici. Et tout à coup, Tov, il passe comme ça près du Sanhedrin. Hey, Tov, comment ça va? Viens-tu? Tu sais qu'il y a Ruth ici et Naomi qui sont là. Ils ont vendu le champ de Mahlon et nous, on a une mitzvah de le racheter. C'est une mitzvah qu'on a vue dans Parashat Be'er dernièrement. Si quelqu'un n'a pas d'argent et il vend son champ, il ne faut pas le vendre normalement parce que c'est le champ qui t'appartient. Depuis la conquête de la terre d'Israël par Yoshua, et chacun, chaque tribu, chaque famille a reçu le champ qui lui allait bien à lui. C'est là-bas aussi où il peut, spirituellement, il peut plus monter dans l'endroit le plus approprié au monde où il doit habiter pour pouvoir progresser dans sa vie spirituelle, parce que c'est vraiment l'endroit, c'est sa terre à lui. La Torah, elle dit que si maintenant quelqu'un il est vraiment en situation très très difficile financière, ce qui est le cas avec Ruth et Naomi, il peut vendre ce champ-là. Mais il y a une mitzvah pour que le proche, un des plus proches, il rachète le champ, parce que comme ça reste dans la famille. Alors il dit, tu sais que Ruth et Naomi ont vendu leur champ, et toi tu passes avant moi pour racheter. Tu veux racheter? Oui, ok, je suis intéressé, c'est un bon champ, tout ça, je vais le racheter. Il dit, oui, mais si tu rachètes, Ruth, elle a mis une condition, elle veut que celui qui rachète le champ, et vu qu'il la rachète à elle aussi, il veut se marier avec elle aussi. Elle veut qu'il y ait une descendance à son mari Mahlon. Son champ, le champ appartient à Mahlon en tant qu'héritage, d'accord, de son père Elimelech. Elle veut qu'il y ait non seulement un héritage physique, mais aussi une descendance physique. Elle dit, ah non, je peux pas marier avec elle. Lui, il dit, écoute, je suis déjà marié, j'ai des enfants, vas-y toi, d'accord. La vraie raison, on dit Chazal, il aurait pu se marier à l'époque, il se mariait avec plusieurs femmes. Mais il avait peur que, vu que c'est une Moabite, et les Moabites, on sait qu'il y a une question, Moabite, pas Moabite, etc., d'accord. Boaz sait très bien que c'est Moavi et pas Moavite. Mais Tov, il avait une. Le proche, il s'appelait Tov, d'accord? Il a dit. Lui, Tov, il était le frère de Elimelech, alors que Boaz était le neveu de Elimelech. Donc il était plus proche. Et lui, il hésitait. Alors il s'est pas marié avec elle. Et d'ailleurs, on voit que dans Megillah, on l'appelle pas par son nom, Tov. On l'appelle Ploné Almoni, comme ça, quand il passe. Boaz, hé, toi, un tel, Ploné Almoni, c'est un tel, viens, un tel. On ne veut même pas rappeler son nom. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit que c'était Moavé et pas Moavé. Tu aurais pu te marier avec elle, de toi serait descendu, ce serait sorti la descendance du Mashiach, le roi David, le roi Shlomo, jusqu'à Mashiach, d'accord? Bon, alors, tu acceptes qu'on fasse maintenant un kinyan, un acte d'acquisition? Oui, pas de problème. À l'époque, comme c'est un acte d'acquisition, quand on achetait quelque chose, on sortait la chaussure. Ils sortent la chaussure, voient sa chaussure, devant 10 témoins du Sanhedrin, et sous-entendu aussi qu'il faut 10 personnes pour se marier, et dit, ok, vous voyez tous maintenant, je reprends le champ de Ruth et Naomi, et comme ça je me marie aussi avec Ruth. Et tout le monde est très content, et le bénissent, et lui disent que sorte de toi une descendance comme celle de Rachel et Léa. Où est le rapport avec Rachel et Léa? De Rachel et Léa est sorti tout le peuple d'Israël, d'accord, les fils de Yaakov. Mais Rachel et Léa venaient de Chélavan, c'était un roi de Vodazara, un idolâtre. Comme Ruth vient d'une famille idolâtre, le roi de Eglon, elle s'est convertie, vous aurez le même mérite de votre Hachem, et de vous sortira une grande maison, et effectivement, celle du Mashiach est sortie. Les sages d'Israël ont dit que cette même nuit, Boaz il a dit à Ruth, sache que tout le monde entier sait que tu es une femme Eshet Chayil, tu es une femme vaillante. Et c'est marqué à propos de Boaz, Gibor Chayil. Les deux, c'est le même mot, Chayil, vaillant. Ils ont mis au monde un enfant, c'est la quatrième génération après, le roi David, à propos duquel aussi il écrit Gibor Chayil. Un homme vaillant. Très courageux. Ok, il se marie. Et la fin est très triste. La même nuit, ils ont une relation ensemble. Et après, Boaz meurt. Le matin, tout le monde apprend que Boaz est mort. Qu'est-ce qu'ils ont dit tout le monde? Ben, vous allez, vous voyez. Lui, il a dit Moavi, pas Moavite. Et en fait, il avait tort. Preuve en qu'il est mort. Dieu l'a tué parce qu'il se marie, parce qu'il avait Moavite. Et là, la Torah l'interdit. Et de nouveau, c'est devenu une sorte de doute comme ça dans la race, oui, sinon. C'est pour ça que Shmuel Hanavi, il a écrit toute la Megillat Ruth pour qu'on sache que c'est effectivement vrai. Et elle est tombée, de cette relation, elle est tombée enceinte. Ruth est née un enfant que, c'est marqué, les voisins l'ont appelé, les voisines l'ont appelé Oved. On ne connaît pas quel était son vrai prénom. Après, ça a été il a été appelé Oved. Oved signifie serviteur, parce qu'ils ont dit que c'est un serviteur de Dieu. Et là, ils ont compris, c'est pas possible que c'est une relation interdite avec une Moabite, sortir un. C'était un grand sadique, Oved. Et son fils, c'était Ishaï. Ishaï, c'est une des quatre personnes qui n'a jamais fait aucun péché. C'est marqué qu'il y a quatre personnes qui sont mortes par la malédiction du serpent, que l'homme doit mourir. D'accord, mais lui n'avait aucun péché. Ishaï était le père du roi David, donc quatre générations. À la fin de Megillah, on nous cite la descendance depuis Pérez. Depuis Pérez, 10 générations jusqu'à David. Pourquoi depuis Pérez? Pérez, il est né d'une relation entre Yehuda et Tamar, et Yehuda a cru que c'était une prostituée. Il n'a pas reconnu que c'était une belle fille. C'était une relation un peu comme ça, un peu tordue, d'accord? Aussi avec Ruth et Boaz, la grange, comme ça, on se marie, etc. Et il faut savoir qu'aussi, Ruth à Moabite, elle vient de quoi? Elle vient de Moab, d'accord? Moab, c'est la relation de Lot avec sa fille. Donc c'est vraiment un pédigré un peu tordu. Pourquoi? Ça aurait été bien plus simple que Naomi aille voir, Naomi après 3 mois, elle aille voir son beau-frère, d'accord? Non, c'était le fils de son beau-frère, son neveu, par alliance. Boaz lui dit, écoute, Boaz, il y a une femme extraordinaire, elle est Ruth, c'est une tzadeket, elle est bien, tu l'as vu, elle fait beaucoup de chesed, marie-toi avec elle, on fait un chidour. Elle lui dit, va dans la grange la nuit, c'est quand même tordu, pourquoi elle fait une chose pareille? Ça, c'est un secret très profond. C'est que, vu qu'on parle maintenant de la descendance qu'a eu le Mashiach, le côté négatif, il accuse, il ne veut pas, il veut empêcher ça. Alors, on est obligé de passer par des circuits les plus tordus possibles pour qu'il ferme les yeux. La relation, l'acceptation de Boaz se marier les deux dans la grange la nuit, alors le mal c'est de bouff, avec des filles, une fille qui rentre comme ça chez un monsieur au milieu de la nuit, ça je m'en fous, je ne regarde même pas. La relation incestueuse entre Lot et sa fille, la relation entre Yehuda et sa belle-fille Tamar, ce sont de ces relations-là que sorti le Mashiach. Pourquoi on passe par ces biais-là? Comme je veux aussi l'État d'Israël, d'accord, j'en profite un peu pour parler. Comment se fait-il que le retour en terre d'Israël, qu'on se prie ça depuis 2000 ans, et toutes les prophéties en parlent. C'était fait par des gens qui sont non religieux, anti-religieux, qui mangent du porc, incirconcis, qui ne font pas qui pour eux. C'est le seul moyen de faire pour que le côté négatif ferme les yeux. Ah, bah c'est bien ceux, ils se comportent comme des goyim, bah, qui rentrent, ils vont faire du peuple d'Israël, le peuple juif a toujours été pratiquant. Ils vont créer un état de juifs non pratiquants. En majorité ici, les juifs sont complètement non pratiquants. Aujourd'hui, peut-être 80%, à l'époque c'était 98%, d'accord? Là, le côté négatif, il est d'accord. C'est pour ça que ça doit passer par les billets les plus tordus, et après Dieu fait des grands miracles, et comme aujourd'hui, Baruch HaShem, le monde israélien est en train de faire une grande chouva comme le monde entier, comme dans le monde entier, Bezrat Hashem. Alors on commence le Yichus, le décompte de toute la descendance de Pérez. C'est Pérez, son fils s'appelait Hezron, Ram, Aminadav, Nachshon, Salmon, Boaz, Oved, Ishaï, David. 10 générations pour arriver au roi David. Bezrat Hashem, que nous voyons bientôt le roi David parmi nous, parce que c'est l'âme du roi David qui revient dans le Mashiach, parmi nous, et que la royauté du roi David reprenne pour l'éternité. Amen et amen.